Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Après l'Iran, l'Irak semble rejeter en bloc la présence américaine sur son sol. Les députés y ont voté hier le retrait des troupes internationales. Une demande non contraignante, mais extrêmement symbolique, alors que la tension est au plus haut dans la région et qu'aucun pays ne semble endosser le rôle de régulateur, vous l'entendrez. Les troupes turques se déploient en Libye. C'est en tout cas ce qu'annonce le président Recep Tayyip Erdogan. Et nous y reviendrons dans un instant. Et puis dans ce journal également, nous nous pencherons sur la mobilisation contre la réforme des retraites en France. Elle entre dans son deuxième mois ce lundi, jour de retour de vacances. Les syndicats se préparent à une semaine chargée. Mais d'abord partons au bout du monde avec le témoignage de pompiers australiens qui combattent depuis des mois maintenant les incendies qui ravagent le pays. Et surtout la côte est de l'Australie où plus de 20 personnes sont mortes depuis le mois de septembre. Après un week-end très difficile, Gaëlle Joly a rencontré ses soldats du feu de retour du front. Elle raconte.
Le visage encore couvert de suie, les mains noires de cendre, le jeune Adrian Butters, 26 ans, pompier volontaire, a du mal à contenir ses larmes quand il s'agit de raconter son face-à-face avec les flammes. Il vient de passer 18 heures sur le pont. Samedi, il a combattu celui qu'on appelle ici le monstre dans des conditions épouvantables.
It was home, so...
Il faisait chaud, vous sentez la peur. Et ce qui est effrayant, c'est la taille des flammes. Et à 2-3 heures du matin, le feu est toujours aussi intense. Je crois que ce qui m'a le plus effrayé, c'est que mon frère, ma sœur, ma mère, mon père l'étaient vraiment. Émotionnellement, c'est éprouvant. Physiquement, c'est éprouvant. Mais au bout du compte, le pays est en train de brûler. Et on ne va pas obtenir de renfort. Donc si on ne fait rien, qui va le faire ?
Les risques sont énormes, les sacrifices aussi. Déjà 3 pompiers ont perdu la vie, 5 millions d'hectares sont partis en fumée, c'est 2 fois la Belgique. Le capitaine Stephen Knowles ne veut pas trop se mouiller, mais comme de nombreux pompiers ici, il enrage contre son gouvernement.
The resources are very stretched. There's probably 20,000 people in the state that do what we do.
Les moyens ne sont pas suffisants. Il faudrait probablement 20 000 hommes dans tout le pays pour combattre le feu. D'habitude, on a du renfort, mais là, tout le monde est occupé. Et un peu d'aide serait la bienvenue.
Dans le meilleur des cas, il faudra, selon lui, encore 4 semaines pour contrôler les incendies, bien plus selon les caprices du mercure et du vent.
C'était un reportage de Gaëlle Joly avec Arthur Gerbeau pour les moyens techniques en Australie. C'est une décision inédite qui a été prise en Irak hier. Le Parlement, réuni en session extraordinaire, a appelé au départ des troupes de la coalition internationale, troupes qui sont sous commandement des États-Unis. Plus de 5000 militaires américains sont actuellement déployés en Irak, mais après l'attaque américaine contre un représentant iranien à Bagdad vendredi dernier, après cette attaque donc, les parlementaires irakiens ne veulent plus de la présence américaine sur leur sol. En tout cas, ceux qui ont voté hier au Marwaman.
La colère des députés chiites a été plus forte que le boycott des parlementaires kurdes et sunnites. Mais cette résolution, votée à main levée, n'est toutefois pas contraignante pour le gouvernement. Sauf que c'est le premier ministre irakien en personne, Adel Abdelmadi, toujours en fonction malgré sa démission en novembre dernier, qui a demandé au Parlement de mettre fin à la présence des troupes étrangères en Irak. Et donc des 5200 soldats américains, ce qui signifie que 2 possibilités s'offrent désormais au gouvernement irakien. Accéder à la demande du Parlement et appeler les forces étrangères à partir sur le champ, ou bien revoir les contours de leur mandat par un processus parlementaire. Reste que ce vote est historique et très lourd de conséquences en cas de départ précipité des soldats américains. Daesh pourrait se reconstituer face à une armée irakienne mal formée, corrompue. Ces soldats avaient fui devant l'avancée des djihadistes, abandonnant Mossoul, deuxième ville d'Irak, sans combattre.
Alors en Irak, les Américains vont-ils se retirer ? Il n'en est pas question pour le président américain. Donald Trump menace déjà l'Irak de sanctions, menace qui vise également l'Iran en cas d'attaque iranienne contre un ou des Américains. Escalade de violence qui pourrait durer car il n'y a pas de régulateur, note le général Vincent Desportes. Il est professeur des universités associées à Sciences Po.
On ne voit pas très bien qui pourrait jouer le rôle d'intermédiaire entre ces deux États pour arriver à faire baisser les tensions. D'autant plus que on a un acteur qui ne dit rien, mais qui a quand même des intérêts en jeu, qui s'appelle la Russie, qui n'est pas directement partie de cette affaire-là, mais qui a été alliée et qui l'est encore de l'Iran dans sa lutte contre l'État islamique, et qui ne pourra pas rester neutre dans cette affaire-là. Il n'y a pas de puissance régulatrice capable de réguler cette montée des tensions. On a donc deux États avec des égos très marqués, qui sont les États-Unis, auxquels se rajoute l'égo particulièrement marqué de son président Trump, et puis l'Iran, qui a également une très forte personnalité et qui est sous l'emprise d'une hiérarchie religieuse qui tient à s'affirmer. On a deux puissances qui ont quelque chose à dire au monde, les États-Unis avec leurs valeurs et l'Iran, qui est une puissance en elle-même et qui est également messianique.
Des propos recueillis par Nabila Hamel. J'ajoute qu'en ce moment, des milliers de personnes sont rassemblées dans le centre de Téhéran en hommage au général iranien Qassem Soleimani, tué vendredi dernier par une frappe américaine. Nous y reviendrons dans les enjeux internationaux juste après ce journal. Plus à l'ouest, la Turquie commence à envoyer des soldats en Libye. Le Parlement turc avait donné son aval jeudi soir. Le déploiement commence donc, selon le président Recep Tayyip Erdogan. Il souhaite soutenir le gouvernement d'union nationale en Libye, qui fait face depuis 8 mois à une offensive du maréchal Haftar sur Tripoli. Le président turc ne s'en cache plus à Nandlower.
Recep Tayyip Erdogan, qui s'était gardé jusqu'ici de livrer le moindre détail opérationnel sur ses projets de déploiement de soldats turcs en Libye, a donc annoncé que ce déploiement était en cours, sans dire quand il a commencé. Selon le chef de l'État, qui répondait à une interview sur la chaîne CNN turque, les militaires turcs sur place auront un rôle de coordination. Ils dépendront d'un centre de commandement placé sous l'autorité d'un général turc. Les soldats d'Ankara ne seront donc pas en première ligne, Recep Tayyip Erdogan l'a répété, mais le président a aussi évoqué de façon très évasive l'envoi d'autres équipes qui seront, elles, des forces combattantes. Ces dernières semaines, les informations se multiplient sur la présence en Libye de combattants syriens arrivés de Turquie pour soutenir le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Des mercenaires syriens formés, armés et utilisés par l'armée turque dans le cadre de ses opérations dans le nord de la Syrie.
C'était Anne Landlower. Au Venezuela, il y a désormais 2 chefs pour un seul hémicycle. Juan Guaido a été réélu hier président du Parlement par les députés d'opposition. Mais un peu plus tôt, son rival, Luis Parra, s'était autoproclamé chef du Parlement vénézuélien. Le premier est reconnu par les États-Unis, le second par le président Nicolas Maduro, créant un peu plus le chaos dans la classe politique. Les syndicats français fourbissent leurs armes contre la réforme des retraites en cette rentrée scolaire après les vacances de fin d'année et à la veille d'une reprise possible des négociations avec le gouvernement. Même la CFDT se mobilise, elle est pourtant favorable à une réforme des retraites, mais à condition que le gouvernement n'impose pas derrière un allongement de la durée de cotisation. L'âge pivot à 64 ans demeure un gros souci pour le syndicat de Laurent Berger. Le secrétaire général de la CFDT continue comme sa base d'exiger son retrait, Maxime Debs.
Et pour obtenir ce retrait, pas question de rester les bras croisés. Vincent Pigache de l'Union locale CFDT de Courbevoie envisage tout type d'action dans la semaine.
Rassemblement devant les préfectures ou ailleurs, rencontre avec les élus.
Car il faut bien dire qu'Emmanuel Macron a déçu ici mardi dernier alors que tout le monde à la CFDT attendait qu'il lâche sur cet âge pivot.
Moi qui étais devant ma télé, oui, je m'attendais quand même à un petit geste de sa part qui n'est pas venu.
À côté, Nadine qui travaille en crèche, 58 ans, n'en peut déjà plus alors quand elle entend ce chiffre de 64 ans.
Pas pour nos professions, parce que déjà, à partir de 58-60 ans, on est déjà foutu, quoi. On est plusieurs collègues comme ça, où finalement, on se met en arrêt longue maladie, au moins 2-3 ans avant la retraite officielle. C'est impossible.
À l'hôpital aujourd'hui, infirmières et aides-soignants peuvent dans certains cas bénéficier d'un départ à la retraite anticipé à 57 ans. Avec cet âge pivot porté à 64, le gouvernement promet certes des aménagements, mais les soignants concernés devront aller sur le papier au moins jusqu'à 60. Malika travaille en EHPAD.
Aujourd'hui, cette réforme des retraites, on sait très bien qu'elle doit se faire parce qu'on ne peut pas rester sur l'ancien système. Mais par contre, cet âge pivot, il faudrait que M. Macron entende qu'il doit revenir là-dessus. Si c'est pour partir avec une retraite de misère, c'est une double peine.
Le maintien de cet âge pivot est-il ainsi tenable pour le gouvernement ? À la CFDT, en l'état, les militants assurent être prêts à ne rien lâcher jusqu'à son retrait.
Et deux journées de mobilisation interprofessionnelle sont déjà prévues, jeudi et samedi. Ce lundi, les prévisions de trafic s'améliorent à la SNCF avec 8 TGV sur 10, 2 TER sur 3. En Ile-de-France, à la RATP, en revanche, si 14 des 16 lignes fonctionneront aujourd'hui pour le métro, le trafic, en revanche, sera très partiel. Et le temps de ce lundi, les prévisions n'ont pas changé. Il fera doux et sec sur l'ensemble du pays jusqu'à l'arrivée de la pluie par l'ouest dans l'après-midi. Comptez ce matin 1 degré à Strasbourg et Lyon, 2 à Lille, Rennes et Paris, 3 degrés à Clermont-Ferrand, 10 à Marseille.